Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée, dont voici les titres. Lors de son speech à New York à la célébration de la Journée internationale de la femme et de la 70e session de la Commission de la condition de la femme, Judith Suminwa Tuluka a rappelé que les femmes et les filles de son pays continuent de payer le prix d'une agression injuste, en particulier dans l'Est. En Ituri, plus de 300 camions citernes transportant des produits pétroliers sont actuellement immobilisés. Les chauffeurs protestent contre l'insécurité et les tracasseries dont ils disent être victimes sur la route entre Bunia et Kisangani. Les auditoires délocalisés de l'ISP Ubundu et de l'ITEM de Basoko, opérationnels dans la province du Bas-Uele, ont été fermés. Ceci constitue un handicap pour étudiants et enseignants. La décision a été prise par le ministre de tutelle le 18 février dernier. Pour en parler, nous recevons le directeur général de l'ISTEM Bouta, qui est le président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de cette entité. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour à tous. La première ministre de la République démocratique du Congo prend part à New York aux USA à la célébration de la Journée internationale de la femme et de la 70e session de la Commission de la condition de la femme autour du thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Dans son allocution, Judith Suminwa Tuluka a rappelé qu'en ce jour où la communauté internationale plaide pour les droits des femmes et des filles, celle de son pays continue de payer les prix d'une agression injuste, en particulier dans l'Est. Plus de détails avec vous, Alain Irungmouchi.
Depuis l'agression menée par le Rwanda et soutenue par le groupe AFC M23, les femmes et les jeunes filles dans les zones touchées subissent des violences graves, des déplacements et une crise humanitaire qui affecte profondément leur vie et leur avenir, a affirmé la chef du gouvernement congolais. Judith Suminwa a rappelé par ailleurs que les conflits n'affectent pas les hommes et les femmes de la même manière. Les violences faites aux femmes ne doivent être ni invisibilisées ni banalisées. Elles doivent être reconnues et combattues avec détermination, s'est-elle exclamée. Saisissant l'occasion, elle a aussi épinglé plusieurs réalisations de la RDC en matière de défense des droits et de promotion de la femme. La participation des femmes dans les sphères décisionnelles est passée de 21% en 2021 à 32% en 2024, notamment avec un gouvernement dirigé pour la première fois par une première ministre, a-t-elle confié. Sur cette même lancée, elle a renseigné que son pays, la RDC, s'est également engagé à renforcer l'autonomisation économique des femmes en soutenant l'entrepreneuriat et en facilitant leur accès aux opportunités économiques, notamment dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires.
Pendant ce temps, le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme alerte sur les cas des enfants issus du viol. Au moins 887 cas de violences sexuelles ayant affecté 1534 personnes en 2025 ont été documentés par ce bureau. Ces chiffres ont été publiés hier lundi au cours du lancement de la campagne de sensibilisation sur l'esclavage sexuel et enfants issus du viol tenue ici à Kinshasa. À ce sujet, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaï-Kalama, a souligné que les enfants issus du viol portent sur eux le poids des crimes dont ils ne sont pas les premières victimes. Plus de détails avec John Chibobwa.
Cette campagne vise à renforcer la mobilisation autour de la prévention des violences sexuelles, de la protection des victimes et des luttes contre l'impunité. Pour le directeur du BCNUDH en RDC, Patrick Vahar, l'esclavage sexuel ne doit pas être un outil de guerre.
Notre rapport 2025 révèle que les différents groupes armés font usage de l'esclavage sexuel. C'est des femmes innocentes. Les groupes armés, lors d'un affrontement, envahissent un village, prennent les femmes en otage en leur menaçant de si jamais elles expliquent ce qui leur est arrivé, eh bien soit on va mettre fin à leur vie.
De son côté, la ministre du Genre, Famille et Enfants indique que l'esclavage sexuel ne devrait pas rester impuni. Micheline Kalama.
La violence sexuelle est un crime de guerre. Aux survivantes et aux survivants, je veux dire ceci. Du fond du cœur, pour n'être pas seul. Votre douleur ne sera plus ignorée. Votre dignité n'est pas un privilège, elle est un de droits fondamentaux. Et la justice doit être au rendez-vous de votre espérance.
Le BCNUDH appelle ainsi les autorités à accélérer les poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes, aux groupes armés à cesser les hostilités et à la communauté internationale à renforcer les soutiens financiers pour la prise en charge des victimes.
Selon un communiqué de BCNUDH, toujours parvenu à notre rédaction, les groupes armés M23, Codeco, FDLR ou Azalendo sont responsables de ces violences. Ce même document note aussi l'implication des forces armées, de la police nationale congolaise et des services de sécurité dans cette situation d'insécurité. Donner du sang pour sauver des vies, c'est l'un des gestes posés hier à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, à l'occasion du lancement des activités du mois consacré à la promotion des droits des femmes. Une vingtaine de poches de sang ont été collectées auprès des participantes, majoritairement des femmes policières. Un acte salué par les responsables du centre de transfusion sanguine de la ville qui appellent d'autres personnes à leur emboîter les pas. Le point avec Marc Marofimbo.
Si moi je vois une femme qui est morte, à cause de manquer le sang, je ne sens pas bien dans mon cœur. Et c'est pour cela que moi j'ai donné le sang à ma volonté, parce que la vie c'est la femme.
Cette policière a été la première à s'aligner pour le don bénévole du sang lors du lancement officiel des activités du mois dédié à la promotion des droits de la femme. L'activité s'est tenue dans l'enceinte de la salle des sœurs orantes de Beni. La chef du bureau genre famille et enfants dans la région de Beni, à l'origine de cette mobilisation, indique que le sang reste un besoin crucial dans les structures sanitaires de la ville. Ruth Sabouni.
Deux fois, il y a des problèmes de maladie. Nous arrivons à l'hôpital avec nos enfants anémiques et surtout nos mamans. Nous qui donnons la vie, des fois, nous perdons cette vie à vouloir donner la vie. C'est pourquoi nous avons insisté à la couche parce qu'au moins dans la salle, on avait plus de 300 et quelques femmes qui était présente. Il a été nécessaire pour que nous puissions passer ces messages de donation volontaire de sang pour permettre encore à renforcer notre banque qui a toujours été au secours de tous les malades et toutes les malades qui arrivent à l'hôpital. Et à ne pas oublier que c'est cette banque qui couvre même toutes les zones périphériques qui nous entourent.
Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Une autre alerte dans ce journal, c'est celle de Ocha qui révèle qu'une faim sévère frappe plus de 85% des ménages dans plusieurs localités située sur l'axe Mweso-Pinga, notamment à Rugarama et Kalembe. Nous sommes là, dans la province du Nord Kivu. À la base de cette situation, les conflits, les chocs économiques, les catastrophes naturelles, les flambées des prix des aliments. Le point avec Grâce Hamzati Masanzi.
L'organisation tire la sonnette d'alarme sur l'ampleur de la crise et appelle à une mobilisation urgente afin d'éviter une aggravation de la situation alimentaire dans cette zone. Selon ces rapports, la majorité des ménages présentent une consommation alimentaire jugée pauvre, signe d'une difficulté à accéder régulièrement à une nourriture suffisante et diversifiée. À Rugarama, par exemple, ces taux atteignent 100%, tandis qu'à Kalembe, ils dépassent les 87%. Ces documents de Ocha soulignent également une vulnérabilité plus marquée chez certains groupes, notamment les personnes déplacées internes et les ménages retournés. Près de 95% des ménages déplacés ont une consommation alimentaire pauvre et 80% d'entre eux recourent déjà à des stratégies d'urgence pour survivre. Face à cette situation, les populations adoptent des moyens de survie de plus en plus extrêmes. Plusieurs ménages déclarent emprunter de la nourriture, envoyer certains membres des familles manger ailleurs ou encore vendre des biens domestiques. D'autres retirent leurs enfants de l'école, réduisent les dépenses de santé ou mendient pour pouvoir se nourrir.
Au Kasaï oriental, dans les foyers de la capitale diamantifère, les légumes qui garnissent les marmites proviennent en grande partie des localités voisines. Et derrière ces circuits vitaux d'approvisionnement, ce sont les femmes qui se tiennent en première ligne. Chaque jour, elles parcourent des kilomètres transportant leurs marchandises, tantôt sur la tête, tantôt à bord des motocyclettes. Malgré la fatigue et les difficultés, elles restent déterminées à remplir leur mission, celle de nourrir leur ménage et assurer la survie économique de leur famille. Leur courage force l'admiration. Esther Ndalafina est allée à la rencontre de quelques femmes vendeuses de légumes.
Au grand marché Bakwadianga, Céline Bilonda, vendeuse de légumes, raconte l'origine de sa marchandise.
Je me réveille chaque jour à 4h du matin. Je me rends en Kaboué. J'achète différents légumes. Je cherche un vélo en transport jusqu'à Tchitenge. C'est le travail que je fais chaque jour. À travers ce travail, je ne gagne pas beaucoup. Mais je fais scolariser mes enfants. J'achète la nourriture, on mange. Et la...
Comme elle, de nombreuses autres femmes se rendent à Kaboué ou à Tchitenge pour ramener des produits frais indispensables à la ville. Mais derrière ce labeur se cache un calvaire. Les bénéfices tirés de la vente sont jugés insignifiants par ces commerçantes. Malgré cela, elles parviennent à scolariser leurs enfants, comme le témoigne Alphonsine Ngalula. Pour compenser, elles développent certaines stratégies de survie, diversifier leurs produits, réduire leurs marges ou multiplier les voyages. L'amour du travail et la détermination font de ces femmes vendeuses de légumes des véritables pionnières de l'humanité, portant sur leurs épaules non seulement des paniers de légumes, mais aussi l'espoir et la résilience de toute une communauté. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
À Maragui, dans la province de l'Ituri, plus de 300 camions-citernes transportant de produits pétroliers sont actuellement immobilisés. Les chauffeurs protestent contre l'insécurité et les tracasseries dont ils disent être victimes sur la route entre Bounia et Kisangani. En attendant une solution, ces camions sont stationnés dans des entrepôts le long des routes, dans les avenues, parfois même au cœur des quartiers résidentiels. Une situation qui inquiète plusieurs habitants. Les points avec Jean-Claude Lokidile.
Ces véhicules transportent du carburant, un produit hautement inflammable. Pourtant, dans cette zone, aucun camion anti-incendie n'est disponible pour intervenir en cas d'accident. Et pour survivre pendant cette immobilisation, certains camionneurs préparent leur nourriture sous les citernes à l'aide de braises. Autre problème, l'absence d'installations sanitaires pour ces centaines de conducteurs. Faute de toilettes, plusieurs sont contraints de se soulager dans la nature, parfois en plein air, ce qui pose également un problème d'hygiène publique. Mais ce n'est pas tout. Des habitants alertent aussi sur la présence de jeunes filles, parfois mineures, attirées par l'argent des camionneurs. Une situation qui fait craindre des cas de grossesse précoce et la propagation de maladies. Face à ces risques, certains membres de la communauté lancent un appel aux autorités. Témoignage d'un habitant.
Regardez, plus de 300 chauffeurs. Alors, il n'y a pas d'hôtel qui peuvent les héberger. D'autres dorment en dessous du véhicule. D'autres dorment dans leur véhicule. Et ils préparent aussi en dessous de ce véhicule. Une fois le feu prend un véhicule, alors c'est fini pour nous. Ce qui est grave parce que il n'y a pas d'incendieur, il n'y a pas aussi de système anti-incendie, même à l'entrepôt de la DGDN, il n'y en a pas. C'est comme cela que la population voudrait assez que les véhicules puissent sortir.
Selon nos informations, une délégation des autorités provinciales est attendue ce mardi dans la zone pour tenter de trouver une issue à cette situation. Bounia, Jean-Claude Louki, il est Radio Okapi.
À partir du 23 mars, tous les chauffeurs de Kinshasa devront présenter leur carte professionnelle et chaque véhicule sera identifié et géolocalisé. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur Daniel Bumba Lubaki dans un communiqué officiel parvenu dimanche 8 mars à Radio Okapi. Les autorités disent vouloir sécuriser les Kinois face à la recrudescence des enlèvements dans la capitale et remettre de l'ordre dans les voitures de transport avec chauffeur. Tout véhicule devrait remplir les conditions suivantes. Disposer d'un système d'éclairage et de signalisation fonctionnelle, être équipé des rétroviseurs intérieurs et extérieurs, posséder un avertisseur sonore, être doté d'essuie-glace, avoir un pare-brise en bon état, disposer des vitres, être équipé de pneumatiques conformes et respecter les normes relatives aux émissions de gaz d'échappement ainsi qu'aux réservoirs et aux canalisations de carburant. Restons dans la capitale. À Kinshasa, la commune de la Gombe est confrontée aux coupures quotidiennes d'électricité. Depuis plusieurs mois, en effet, l'alimentation du courant électrique est interrompue chaque jour et cela parfois de 7h jusqu'à vers minuit, voire 1h du matin dans ces coins où siègent pourtant les institutions du pays. Les quartiers concernés sont la gare centrale, les galeries présidentielles, l'avenue du commerce ainsi que le rond-point Forescom. Face à ces calvaires, habitants, opérateurs économiques et autres marchands de cette commune ont exprimé leur mécontentement. Ils disent respecter les contrats entre la Société nationale d'électricité et eux en payant mensuellement leurs factures. Mais la SNEL, de son côté, ne leur fournit presque pas de courant. Conséquence, ils se contentent de payer des groupes électrogènes qui leur coûtent encore plus cher en carburant et font des pertes énormes dans leur travail. Écoutez cet opérateur économique dont les propos sont recueillis par Lievin Mwingavubu.
La ville, entre parenthèses, Gombe, devient de plus en plus invivable. Faute d'électricité, parce qu'en tout cas, s'il s'agit de bien parler, personne ne pouvait s'imaginer qu'à Gombe, on pouvait faire 2 semaines d'affilée sans avoir d'électricité. Regarde par exemple la galerie présidentielle, là où il y a tellement de bureaux, il y a des institutions de l'État, il y a des boutiques d'habillement qui aident la population à bien porter tout ce qui est comme accoutrement. Tout le monde est dans le noir. On ne sait pas travailler parce que la galerie en soi, c'est tout un quartier qui égorge beaucoup de monde. Il y a les gens qui viennent là-bas professionnellement, il y a les gens qui vivent dans les enceintes de la galerie présidentielle. C'est vraiment un cas qui devient amer parce qu'il n'y a pas d'amélioration. Tout le monde se lamente, on ne sait pas là où ça nous amène. En tout cas, je ne sais pas ce que c'est le gouvernement qui va nous aider à pouvoir arranger cette histoire parce qu'en tout cas, nous en avons assez, on souffre.
Contacté, la SNEL reconnaît ses désagréments et indique que des câbles électriques ont été touchés par l'entreprise Sonadex qui est en train de placer les lampadaires au niveau de l'avenue Bokassa. Le directeur de distribution de Kinshasa à la Société nationale d'électricité, Zéphirin Bokassa, qui a livré cette information, ajoute que les câbles affectés sont en train d'être remplacés et que tout va redevenir à la normale incessamment. L'Association nationale des chefs traditionnels section du territoire de Fizi-Prêche, le vivre ensemble au sein des différentes communautés de cette entité longtemps déchirée par des clivages interethniques. Ce message a été lancé le 8 mars lors de la clôture d'une grande réunion tenue au chef-lieu du territoire sous l'égide de l'administrateur de Fizi. Pour cimenter le vivre ensemble longtemps recherché entre les communautés vivant à Fizi, l'administrateur des territoires et toutes les autorités à la base préconisent, entre autres recommandations, la pratique de mariage intercommunautaire. Sami Badibanga espère que les retombées des assises du 7 au 8 mars tenues à Fizi-Centre vont contribuer à consolider la paix et la réconciliation entre les communautés.
Cette rencontre était axée essentiellement sur une thématique intitulée « L'apport des chefs coutumiers ». Dans la consolidation de la paix et la réconciliation intercommunautaire, cage de la cohabitation pacifique en cette période d'agression de notre territoire, un monument de paix a été inauguré. Les 4 chefs de secteur, le membre des comités locaux de sécurité, les 18 chefs de groupement et les chefs des 171 villages, tous étaient présents. J'ai appelé les coutumiers à être des artisans de la paix dans leurs entités respectives. Les différentes communautés qui vivent à Fizi, notamment le Reka, les Luba, les Nindu, les Banyamurenge, le Bembe, le Fuliru, le Bash, les Bajoba, doivent vivre ensemble et privilégier la paix comme l'a toujours souhaité le président de la République, chef de l'État.
Actualité internationale.
Au Sénégal, les PASTEF, les partis au pouvoir, serrent les rangs, alors que le fossé se creuse entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. De nombreux cadres des PASTEF ont pris position ces dernières 24 heures en faveur du chef de leur parti Ousmane Sonko, et donc contre la coalition Diomaye président qui a tenu sa première assemblée générale samedi 7 mars et sa structure pour devenir une force alternative aux PASTEF en vue des prochains rendez-vous électoraux.
L'invité.
Les auditoires délocalisés de l'Institut supérieur pédagogique d'Ubundu et de l'Institut technique médical de Bassoko, opérationnel dans la province du Bazouélé, ont été fermés. Cette fermeture constitue un handicap pour les étudiants ainsi que pour les enseignants, selon leur témoignage. La décision a été prise par la ministre des tutelles le 18 février dernier. Pour en parler, nous recevons les directeurs généraux de ISTEM Bouta et président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de cette entité. Faustin Masikini Iwale s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Faustin Masikini Iwale, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le secteur de l'UCERCI Bazuélé connaît actuellement beaucoup de problèmes avec la fermeture de certains établissements de ce secteur. Dites-nous quels sont ces établissements concernés par cette mesure.
Merci beaucoup. Il est certain que le secteur de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation de la province du Bazuélé est en train de traverser les moments les plus sombres de son histoire, où certains individus ne croient plus à la réglementation de ces secteurs en République démocratique du Congo.
Les structures qui sont fermées par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la province de Bazuélé sont les suivants. Premièrement, c'est les auditoires délocalisés de l'ISTEM Bassoko qui ont pilé partout dans la province de Bazuélé, dans les quatre coins de la province de Bazuélé, sont fermés. Il y a aussi les auditoires délocalisés d'ISP Ubun dans les territoires d'Aketi. Il y a les extensions de Sepromad dans la province de Bazuélé. Il y a l'ISTEM Bazuélé qui est fermé. Il y a l'ISTEM Gipoti qui est fermé. Et il y a aussi, on a écrit dans le document, ISTEM Bambessa. Mais après avoir vérifié sur le terrain, il n'existe pas l'ISTEM Bambessa. Nous avons posé cette question au cabinet de Madame la ministre. On nous dira que c'était l'erreur de frappe. Il s'agit de l'ISP Bambessa.
Pourquoi ces établissements sont-ils fermés? Qu'est-ce qu'on leur reproche?
Depuis un certain temps, nous avons remarqué l'augmentation effrénée des établissements créés anarchiquement, des auditoires délocalisés, des extensions venant même des autres provinces voisines de notre province. Tout simplement dans le but lucratif, sans tenir compte de la formation, de la jeunesse, de la qualité de la formation. Et vous pouvez retrouver ces histoires dans la quasi-totalité des villages et des agglomérations, voire jusqu'au chef-lieu de la province, le Bazuélé, où se trouvent toutes les institutions de la République. Et c'est une situation que nous avons jugée au moins de gravissime. Et à chaque fois que nous invitons ces gens, ils se disent calmement et clairement ne pas être concernés, ne reconnaissent pas le pouvoir de la conférence. Quand on a constaté que cela nous a dépassés, on a fait recours aux autorités provinciales pour nous prêter main forte à remettre de l'ordre. Malheureusement, durant 2 ans, sans succès. C'est ce qui a poussé notre conférence à faire le rapport complet à notre hiérarchie à Kinshasa pour chercher à nous trouver solution parce que les dérapages étaient déjà en excès. Et son Excellence, Madame la ministre de l'UCERCI a aussi fait ses vérifications par ses moyens. Nous avons dernièrement vu la mesure qu'elle a prise pour fermer ces histoires qui désacralisent les secteurs de l'UCERCI dans ces coins de la République, la province de Bazuélé.
Est-ce que cette décision de Madame le ministre a produit des effets escomptés sur le terrain?
Après la prise de cette décision, sur terrain, ça reste encore bafoué par ces gens. Parce que quand nous avons reçu le document, nous avons invité les concernés, ils sont arrivés, on leur a signifié, ils ont pris connaissance du document et après, et donc ils ont dit que ça ne leur concerne pas. Ils ont rejeté en bloc le document et ils continuent avec leur opération d'escroquerie de la population. Et de surcroît, le chef de file de ces groupes des auditeurs délocalisés et extension, après avoir pris connaissance du document, il quitte son poste d'attache à Bassoko pour se retrouver dans la province de Bazuélé. À l'heure où je vous parle, il est en train de désacraliser la toge de la couleur du drapeau de la RDC partout dans les forêts de la province de Bazuélé où il fait les recouvrements dans ces boutiques d'alimentation qu'il a créées et en même temps il instrumentalise ses acolytes dans l'opération des auditoires délocalisés à s'opposer à la mesure prise par Madame la ministre. Oublions que cette décision, ces documents, fait office déjà d'une loi qu'il est en train de se confronter.
Quel est l'essor des étudiants issus de ces auditoires délocalisés qui sont fermés?
Il n'y a que Madame la ministre qui peut nous donner les dispositions à prendre pour encadrer les victimes qui sont des étudiants qui fréquentaient par ignorance ces établissements non viables.
Quel message adressez-vous aux étudiants dont les établissements sont fermés?
Nous invitons ces étudiants à la prudence, à la réserve, de ne plus continuer à perdre parce qu'ils ont déjà perdu.
Monsieur le président de la conférence des chefs d'établissement du Bazuélé, merci.
C'était notre invité Faustin Masikini Iwale qui s'entretenait avec Jacques Moukonkole et c'est ce qui met fin à ce journal de la mi-journée qui a connu la coordination et la supervision éditoriale d'Alain Rongomoshinge et mise en onde par André Mongou. Vous pouvez encore réécouter ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net.